la Megillah de Ruth avec Shavuot. Quel est le lien et le rapport de ces deux éléments, apparemment séparés dans le temps et l'espace? Shavuot, quelque chose qui concerne l'ensemble du clan d'Israël. Ruth, ça concerne un épisode particulier, privé, et qui sait par comment s'est dressé ou s'est tissé un lien entre ces deux événements. Je salue Yalkout, il dit, c'est pas ma question, c'est la question de Yalkout. Ma inyan rout et tsel atseret. Quel est le lien de rout? C'est-à-dire la Megillah de Ruth que nous lisons à Atzeret HaShavuot. Atzeret Yizman Matan Torah. Et le Midrash de répondre dans le Yalkut de la Medach, c'est pour t'enseigner. L'Olitna Torah, elle a Mitor Yesurin Veroni. Que la Torah est acquise, est donnée, que par Yesurin, des mots, problèmes, on y pourroté. Qui c'est qui a rédigé Ruth? C'est Shmuel Hanavi. Qu'elle n'a pas entendu quelque chose. Donnée, on a été donné, on est acquise. Elle a mitoch yisurim ve'oni. Souffrance, douleur et pauvreté. Oni, c'est pauvreté. Ani, Hachamim définissent la Megillah de Ruth. Sifra de Pouranuta, le livre du drame, ou le récit du drame, le livre du drame. Comme ils l'ont dénommé également le livre de Io. Dans les deux, nous avons un récit jonché de situations tragiques, terribles, difficiles, des personnes qui étaient normalement riches, aisées, fortunées, bien placées. Et finalement, nous voyons que cette famille de Elimelech, qui va quitter Eretz Israël, qui était parmi la noblesse du clan Israël, ils vont vivre toute la vie humaine dans la vie en général, la communauté en général, dans la famille et dans l'individu, au niveau de l'individu. Et malgré ça, dit le Rav Lefovitch, que l'impact et l'impression, lorsque nous lisons les deux récits et les deux livres, on a un ressentiment différent lorsqu'on lit Ruth et lorsqu'on dit Eyo. Bien qu'il y ait des souffrances, des malheurs, un après l'autre, des difficultés multiples, on n'a pas la même impression et on n'a pas, la lecture n'a pas le même impact sur nous. On voit la famine, l'exil, la mort, le veuvage, séparation, difficultés matérielles, pauvreté et encore pauvreté. Alors que dans ce livre de Iov, on le montre aussi une personne dans une grande détresse, dans une grande souffrance. Il a subi plusieurs malheurs successifs, un après l'autre. Et même lorsque les collègues sont venus, soi-disant, un petit peu le soulager, ils l'ont enfoncé encore plus. Et ça laisse, mais émettre une peine profonde. Vous allez me dire, mais Rav, c'est pas juste ce que vous dites. C'est un bon dénouement. Quand même, c'est un bon dénouement, franchement, ça vaut le coup. Mais il y a une différence essentielle entre Ruth et Iyo. Dans Ruth, nous avons l'impression, et c'est comme ça que ça sort du texte, c'est pas parce que c'était un habile écrivain qui est Shmuel, certainement il nous transmet ce que le roi HaKodesh me consente, nous faire sentir que toute situation, elles étaient liées les unes les autres pour aboutir à un dénouement qui s'appelle la maison de David. Il y a ici un concours de circonstances qui fait que telle route finalement est arrivée à réaliser une chose moyenne. Dans le cas de Iyo, on n'a pas le même sentiment. Ah monsieur, il a souffert, puis hop, il y avait comme si un jour d'été, il y a des nuages menaçants, sombres, pesants, et puis hop, tu vois, un vent vient, et le soleil revient. Ce n'est pas la même impression que nous avons dans Route. Dans Route, on voit qu'il y a ici une préparation, une succession de faits et d'événements qui conduisent obligatoirement à un but. C'est un dénouement heureux qui est lié aux événements qui ont fait grandir cette femme ou qui a donné à cette femme une fin extraordinaire. Dans Iyov, on n'a pas le même sentiment. C'est pour ça qu'on sent que la souffrance n'est pas le dénouement, bien que à Kadosh Baruch Hu, il a compensé Iyov, il lui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bien qu'il n'avait auparavant. À tel point que Hakamim s'interroge sur le nom que porte Ruth. Pourquoi ça s'appelle Ruth? Alors vous allez me dire, je n'étais pas agent préposé au registre d'état civil. Mais chez nous, rien n'est hasard. Dans la Torah, tout est réfléchi, tout est pensé. Et dans le mot Ruth, Hakam, ils ont trouvé, exceptionnel comme ils ont trouvé, que cette dame qui s'appelle Ruth, et pourquoi elle s'appelait Ruth? Parce qu'elle a donné naissance, elle était de quelqu'un qui a assouvi Dieu des loges et divines. Ruth, du mot, vous savez de quel mot ça vient? Non, si vous ne savez pas. Ah, vous connaissez Kossi Revaya? Revaya. Kossi Revaya. On dit la matzea de Zmone David Hashem Oyelo Essa. Quelqu'un qui a une belle coupe, qui a un bon breuvage là-bas, qui se désaltère, qui est assouvi. Ruth, celle qui a assouvi Dieu. Comment l'a-t-elle assouvi? Elle a donné naissance, elle. Donc il faut savoir que par son mérite, on a eu, quelques générations après, David Améler, qui, pour nous, a Ne'im Zemirot Israël. Par quel mérite il a pu être ce qu'il est, à ce niveau-là, de pouvoir exprimer et assouvir Hachem de chants dignes et d'éloges? C'est vous, c'est sa mère. Ça n'a rien à voir. Donc on voit qu'il y a un lien, comme c'est là, on dirait aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui. Elle est passée dans le gène. Dans les gènes de Ruth, il y avait une dimension et qui avait un lien extrêmement intime entre l'état de Ruth donc qui a vécu ses malheurs multiples sous plusieurs facettes, et malgré ça était plein de remerciements envers Dieu. Et qui c'est qu'ils ont exprimé? Un monsieur plus tard, qui s'appelle son arrière-petit-fils, Arben, Boaz de Paul. On verra voir. Ça serait un peu difficile que ce soit son fils Boaz. Arben, Ishaï et David. Donc ce passage-là, donc c'est énorme ce qu'il nous révèle Hachamim. C'est pas seulement dans la recherche philologique du terme Ruth Revaya, mais il nous découvre ici une relation intime d'une haute portée que cette Ruth-là, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a souffert, elle a transformé en hymne à Dieu. Vous allez me dire, j'aurais été la mère du peuple du monde, c'était la mère du Machia. Machia, vous connaissez Machia? C'est pas gratuit. Donc, cette femme qui est arrivée a déclaré Amer ami, velokaïr elokaï. Ton peuple, c'est le mien, et ton Dieu, c'est le mien. Et on aurait pu imaginer un autre scénario. Pourquoi traverser tant d'épreuves, et tant de soucis, et tant de malheurs, et tant de difficultés qui, apparemment, avilissent la personne, réduisent la personne? C'est terrible. C'est pas seulement ça. Le Midrash vous dit que cette jeune princesse qui s'appelle Ruth, on en a parlé depuis longtemps. Au moment où les Malachim sont venus détruire Sodome, ils ont dit Shtei benotecha hanimtsaot. Le mot Nimtsaot a alerté Hacham, a interpellé Hacham. Ça, c'est Nimtsaot. C'est sûr, c'est la deux filles qui sont là. Les deux filles qui sont là, qui se trouvent. Ils les ont vues. C'est des chèvres, on est à la ligne. Nimtsaot, Hachamim, ils ont défini ça comme Metsia, deux obélis. Et ceci au temps de Lod, car Kadosh Baruch Hu va entretenir deux peuples entiers pendant 7 siècles avec un territoire, une armée, des lois, etc. Pour sauver, tirer deux personnes, une de Moab et une d'Armon. Ruth à Moabia. Ruth issue de Moab et Naama Ammonite. Elle est moins connue Naama Ammonite. Elle n'a pas fait des cas, mais il faut savoir que le Mashiach vient d'elle aussi.
De Naomi?
Non, je n'ai pas dit Naomi. Ne déformez pas les mots. Ruth et les Vaya, je peux comprendre. Naomi et Naama, ce n'est pas la même chose. Naama, c'était la femme de Shlomo HaMelech. Une des femmes. Et vous savez que le Mashiach va être, pas seulement de David, de Shlomo. De Shlomo HaMelech. Parce que David avait plusieurs enfants. Il ne suffit pas de juste une son de David HaMelech pour être Mashiach. Il faut la filiation de Shlomo. Donc, on voit ici une relation un peu spéciale. Mais revenons à Ruth. Ou Nimtsaot. On a déjà fait allusion à la présence de ces deux filles, que par elles, par les filles de Lot, ils vont donner naissance à des nimtzaot, à d'autres qui vont se trouver issus d'elles. Que la Kadosh Baruch Hu a déjà prévu et mis en place comment, dans le puzzle des olamot et des nishamot, on va véhiculer ces deux nishamot de route et de là. Donc nous avons dit que tous les événements connus et vécus par route, c'est eux qui ont disposé route à venir à ce dénouement heureux qui s'appelle la naissance de l'Oyamel. Comme nous savons tous, et c'est prévu dans le monde physique, rien ne pousse sans pluie. Mais pour que ça pousse, c'est qu'une graine. Ce n'est pas une graine qui peut pousser. Donc il faut que ce soit une bonne graine. À ce moment-là, quand cette graine elle est là, et elle a les conditions, elle réunit les conditions optimales pour qu'elle se développe, alors à ce moment-là, elle se développe bien. Mais la pluie toute seule, elle fait pousser toutes sortes de végétaux. Mais la bonne, il faut qu'il y ait une bonne graine. Donc la bonne graine, c'était où? Et donc, elle a été aussi préparée et soumise à des tests, à des épreuves terribles pour faire grandir cette dame qui s'appelle Ruth. Hazal nous ont enseigné, d'ailleurs c'est une expression de Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit, HaKadosh Baruch Hu nous a doté de trois cadeaux. Trois, il nous a fait trois cadeaux. Trois présents. Torah, Eretz Israël, et Olam Haba. Magnifique. Torah, Eretz Israël, et Olam Haba. C'est mieux, ça dit Olam Haba, c'est mieux. Ces trois présents nous ont été donnés d'Abi Shimon ben Yochai, tous à l'Issourim. Issourim, souffrance. Kulam Aride Issourim. Pour y accéder. C'est un autre Olam. Ce Olam Haba, c'est le monde à venir. Mais ce monde à venir, c'est pas la porte ouverte. Il faut une carte. Pour savoir si bien c'est vous. Pas rien par qui. Il y a beaucoup qui attendent. Tous ils veulent Olam Haba. Sortez dans la place de la Concorde, demandez pour Olam Haba. Demandez aux islamistes comment ils travaillent aujourd'hui. Tout ce qui pourrait être Olam Haba. Gratos. Oui, mais ils promettent Olam Haba, demandez-le. Demandez aux missionnaires jésuites, ils vont dire la même chose. Ils travaillent qu'avec ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, Papo, au Brésil, la même chose. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Papo. Oui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je fais ma propre, excusez-moi. Ça, c'est le qui dans le livre. Sans, on développera ça un autre sujet. On va faire peur en chapeau. C'est déjà suffisant avec la Torah. Toujours. Hein, comment tu vas? Mais la tchouba, c'est pas.
C'est quoi?
Vous voyez, tchouba, c'est dire le mot tchouba.
Non.
Tchouba, c'est une réalité de refonte de la vie. C'est une refonte entière, c'est pas tchouba.
C'est dur.
Et pourquoi ils ont été sauvés? Pas pour elles-mêmes.
Pour avoir la médecine.
La médecine a des routes et la main. Non. Non. La Anna, c'est la mère de Chopin, la femme de Chopin. Donc je reviens. Alors, on va aller plus. Hein? Oh, les gens croient Tchouva, ça y est.
Ça y est.
J'ai dit Tchouva, ça y est. Je me crois que pardonne. C'est vrai que c'est que faire Tchouva. Mais la Tchouva, c'est. Non, pas la vérité. C'est nous-mêmes, c'est ça, c'est notre décision. Mais il faut savoir que ça m'engage. C'est pas seulement le mot Tchouva, ça y est. Tchouva, c'est tout. Une approche de la vie dans une autre directive que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. On revient, ça veut dire qu'on n'était pas là. Tu vois, on y revient. Où tu reviens? Ça veut dire que tu n'étais pas là. Alors il faut savoir où tu étais et où tu vas aller. Alors on revient à Torah. Vous allez me dire, Torah, il sourit. C'est pas gentil, toi, il sourit. Apparemment, ça se voit pas, les souris.
Attention.
C'est pas des souris, mais c'est lequel. C'est pas moi qui disais aussi. Vous allez me dire, monsieur le Rav, je comprends pas pourquoi toi, c'est souris. Tout le monde adore la Torah. Tout le monde chante pour la Torah. Tous ceux qui disent la Torah, ils sont heureux. Ils sont épanouis. C'est vrai, ils triment un petit peu. Ils se cassent la tête. Ils essaient de réfléchir pour chaque mot, ils essaient de comprendre. Mais c'est ça l'étude. Alors oui, ils sourient. Où est la souffrance? C'est sûr, il faut étudier, il faut s'y mettre, il faut s'investir. Hein? Je vais parler en arabe, vous allez comprendre. Les hibzin, ils sont là dedans. Si je veux être belle, vous souffrez. Vous savez très bien. Donc, si je veux étudier, il faut bien que je m'investisse. Alors, sans les souris. C'est pas gentil de dire des souris pour la Torah. La Torah est belle. Alors, écoutez bien. Quels sont les souris? Je dois étudier. Il faut bien que je comprenne. Sinon, ce n'est pas des études. Je ne vais pas faire Tehillim toute la journée sans rien comprendre. J'ai étudié. J'ai dit, c'est psalmodier. J'ai annoncé, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas étudié. Lire et étudier, c'est deux choses différentes. Et c'est normal qu'on ait études, ça veut dire s'investir pour comprendre, pour creuser qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi ça ne contredit pas ça? Pourquoi c'est comme ici? Pourquoi c'est pas comme là-bas? Ça c'est normal, c'est pas des souris ça. Alors sont les souris. J'ai une bonne idée. Mais on parle maintenant que de Torah, ne dis pas la vie. Alors, vous allez écouter quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais écouté. Ça c'est pas en arabe, je dis en français. Har Sinai. Que veut dire le mot Har Sinai? Har Shiyar Dabo Sina la Olam. Le monde de la haine. Heureusement qu'il n'est pas très haut. Quelle haine? On n'a pas encore eu le sourire. J'ai déjà un mot, vous avez compris. Har Sinai, Sinai, Shiar Dabor HaOlam. La montagne de laquelle est descendue la haine dans le monde. La haine s'est installée dans le monde à cause de ma Matan Torah. Le nom de la Torah, il a fait qu'il y a un peuple élu. Il y a une sélection. Donc autres, ils comptent pour
du beurre.
Le beurre, ça me promet, hein. Le beurre, c'est bon. C'est pas notre affaire. C'est vrai ce que vous dites. Ne me dites pas pourquoi c'est comme ça. Il faut savoir qu'une réalité, comme on dit, une réalité est la suivante, que le monde a été divisé en deux. Une élite et des pâquerettes. Et la haine a commencé. Pourquoi on n'est pas aimé dans le monde? Même si quelqu'un n'a jamais vu un juif dans le monde vivre, il vit au fin fond du Japon, ou les îles de je ne sais pas quoi. Juif. Juif, c'est impossible de vivre avec eux. Ils dirigent le monde entier. Tout ce que vous voulez comme les antisémites.
Mais pourquoi c'est comme ça? Aurait pu faire que je sois là-bas, mais à cause il m'a épargné. Donc je suis là, c'est rigolo. Mais il y a des gens qui pensent pas comme ça. Ils disent, mais être juif, c'est être reclus du monde, c'est souffrir, c'est ne pas être accepté, c'est toujours être. C'est le sentiment de méfiance, c'est toujours des gens spéciaux, c'est toujours des gens. Compliqués. Ils ont tous les mots du monde. Voilà ce que Hashem Shalom dit sur lui. Ça, c'est des souris. Que lorsque quelqu'un se trouve dans la société, il n'est pas accepté par la société dans laquelle il veut, il dit c'est à cause de la droite que je souffre, alors il s'assimile. Il est prêt de s'assimiler. N'importe quoi, c'est vrai. Mais malheureusement, la réalité des faits, ça peut donner au moins, même si Hashem Shalom, on n'arrive pas. Mais des fois, un homme peut penser comme ça, Hashem Shalom. Oui. Si la Torah est si bonne et si bien, au contraire, c'est pas la démarche inverse. On va vers le bon. Alors, est-ce qu'on l'a pas diffusé suffisamment?
Vous êtes formidable. Hashem Israël, vous me dépassez. C'est sûr. Vous me dites ce que la raison doit être. Moi, je dis où est la souffrance? Mais c'est une souffrance.
Mais pourquoi
une souffrance? Non, regardez autour de vous. Soyez honnête et objectif. Et regardez autour de vous. Ne voyez pas une qui a le bonnet comme vous. Il y a ceux qui sont autour de nous qui, malheureusement, au fur et à mesure du temps et des siècles, ils ont dit, il faut bien se fondre dans la société française qui vous a bien accueilli favorablement. Pourquoi, alors qu'ils nous ont bien accueillis, ouvert les bras, pourquoi se montrer différent? Tant que... Alors, au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé des armes. Une juive, elle a secoué la tête, mais je suis parmi 10 000 goyotes. Pourquoi il y en a à voir que moi? Que moi il va voir? Que moi il va voir? Il y a 10 000 goyotes qui vont la détenue. Il va voir que moi, les juifs. Ah, je t'en prie. Il faut vraiment être vicieux. Après, on est passé un stade supérieur. Mais je pense que c'est avant, c'était comme ça. Avant, ça s'appelait Sarah et Tara Hebelea, Penina, Ruth, Naama, Naomi, Elisheva, Papa. Après, on s'appelle Jeanne. On s'appelle Christiane. Christine. C'est plus jeune Christine. Malheureusement, il faut savoir que nous avons été influencés. Oui, vous dites vous. Oui, il y a une limite. Mais il y a des gens qui disent pourquoi il y a la limite.
Il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Et finalement, on a tout rejeté. Parce que la première génération est passée au stade inférieur. Et les enfants, ils ont moins connu. Et donc, les troisième génération étaient assimilées. C'est le questionnement. Parce que l'homme ne se supporte pas différent des autres. Il ne veut pas se... Bien sûr, il veut être Nike. Voilà. Ça ne dérange pas. Mais tout le monde porte Nike. Les juifs, hey. Donc, Hasbe Shalom, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident ce que je dis là. Il y a la difficulté de l'être et d'assumer son identité. Parce que nous, on dispose de la Torah et la Torah se met la haine. C'est toutes les générations, sans qu'on comprenne pourquoi, il y a une logique. Mais comme les autres ont dit, mais on n'a pas voulu. Vous n'avez pas voulu, mais il n'accepte pas ça. Sauf qu'on sort, en fin de compte, c'est une réalité qui a une sélection. Ils croient, ils n'y croient pas, ils sont athées, ils sont parasites, tout ce que vous voulez. Mais les juifs sont spéciaux.
Excusez-moi,
il y a Charles.
Droit.
Mais
c'est d'abord un
pourquoi ça se met la haine comme ça, la Torah? Moi, je diffuse tout le temps.
Excusez-moi, c'est pas seulement de Arsina, c'est Abraham Avinu. Et les Bnei Israël en Mitzrayim, avant Matan Torah, déjà ils n'étaient pas aimés.
Voilà. Ça, on n'a jamais dit qu'ils n'ont pas été aimés. On n'a jamais dit qu'ils n'ont pas été aimés. On a dit seulement. Attends, vous laissez une question, je vous pose une question.
Avant Matan Torah,
j'en supplie, laissez-moi répondre. Après, j'écoute. Yosef HaTzadik dirigeait Mitzrayim. Chef du gouvernement pendant 80 ans. Personne n'a gagné 80 ans. De l'âge de 30 à 110. Hein? Tu fais le compte? Bien. La Torah nous dit, de manière explicite, que les Mitzrayim ne possèdent, n'avaient pas les mêmes coutumes culinaire et alimentaire que les hybrides, les Hébreux, ceux de notre berge. Mais ils se respectaient.
On peut dire aussi qu'il y a des...
Attendez, attendez, je vous en supplie. Laissez-moi dire. On n'a pas dit qu'ils ont haï les Juifs. On a dit qu'ils ont aliéné les Juifs parce qu'ils avaient une peur terrible d'eux. Pourquoi? Ils n'ont pas dit que les Juifs haïssaient les Égyptiens. Ils ont dit seulement, ils vont s'allier à nos ennemis et ils vont nous chasser du pays. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils les haïssaient. Mais ils les ont exploités, ils les ont essorés dans tous les sens. Pourquoi ? La panique que ça porte atteinte à leur droit, qu'on va les spolier, on va les rejeter, alors qu'ils nous ont accueillis, ça veut dire nous, on va rendre le mal pour le bien qu'ils nous ont fait. Alors, on a fait une propagande. Attention, ne croyez pas que nous prenons des mesures contre les juifs parce qu'ils sont mauvais. Non, ils sont très bons. Mais nous craignons une attaque des ennemis. Et les ennemis peuvent les soudoyer, ils vont s'associer avec eux. Et donc nous, on est perdants d'office. Eux, ils se multiplient sans nombre. C'est pas normal, d'une manière exagérée. Et donc, ils vont être trop nombreux. Et ils vont porter aide à aux autres automatiquement. Ils n'ont jamais vu qu'ils ont haï les juifs. Esav, ce n'est Yaakov. C'est vrai, Esav, ce n'est Yaakov. On garde la limite à Esav, Yaakov, c'est vrai. Mais ici, on parle du monde entier contre eux. Har Sinai. Regarde là aussi. Et donc, cette idée-là, pour faire souffrir quelqu'un, à tel point de ne pas vouloir assumer sa identité et de rejeter ça. Et vous le savez, autour de nous, ce n'est pas la peine. Et on est au 20e siècle, je veux comme tout le monde, pas de problème. On est bien accueilli, on travaille, pourquoi je t'ai remarqué pour le Shabbat, pour le Yom Tov, c'est difficile. Ça va. Autre vie, autre mœurs, avant, ça va. Alors, il y avait une autre question. Non, je continue.
Oui, continuez.
Je voudrais une autre question là-bas. S'il
vous plaît.
Oui.
Pourquoi la Torah a-t-elle arrivée donc à porter cette haine
des autres ? J'ai répété pour la première. C'est pas la Torah. L'événement qui s'est passé au Har Sinai, il a fait une sélection. Obligatoirement. Et de facto, quand il y a sélection, il y a jalousie. Et quand il y a une jalousie, quand on ne peut rien faire, la jalousie s'en sort en haine. Et donc, il y a des gens qui peuvent supporter ça. Ça, c'est le souhait. C'est ça le vrai souhait. Il y a des personnes qui sont prêtes à accepter une chose.
Ça existe. Nous avons été élus ou nous avons élu
Dieu. Nous avons accepté. Comme c'est chaud, c'est ça, normalement, je devrais arriver ça à la fin. Il y a ici ce qu'on appelle en français cooptation. C'était cooptation. Cooptation. Un choix réciproque. Il y a un homme qui s'appelait Abraham Avinu, qui, depuis sa tendre jeunesse, n'acceptait pas le principe de l'idolâtrie. Et il a cherché à comprendre le monde. Et il a dit, c'est impossible que le monde marche quand ces imbéciles d'idolâtres, païens, qui donnent des idées aussi farfelues. Et donc, il a lutté contre cela. Mais il n'avait pas la réponse. Il a encore réfléchi. Il dit, c'est sûr que ce monde, il a un créateur, et quelqu'un qui le dirige, et quelqu'un qui vit sur lui. Mais, ça c'est une conclusion philosophique de la part de l'esprit. Mais entre la conclusion philosophique et la réalité, le monde, c'est un monde. Ça, je lui dis, c'est vrai, tu m'as cherché, je suis là. Coucou. Mais quand je dis coucou, ça, il l'a dit. Il a combattu son père, il a combattu Nimrod. Il a été jusqu'au bout. Ah, la fournaise, c'est quoi? Si c'est pas comme ça, c'est pas qu'il aime de vivre. Ou ça, ou c'est pas la peine de vivre. Vivre avec une autre croyance. qu'il y a des idoles qui descendent de l'Olympe ou qui montent de l'Arkansas, ça ne peut pas être. Il faut quelque chose, faut quelqu'un qui réfléchit et pense à ce magnifique monde pour le structurer et le programmer d'une manière exceptionnelle, et que c'est seule sa volonté qui compte, et seule sa volonté dirige, et moi je veux plaire cette volonté. Quand il est sorti, quand il est rentré dans la fournaise, alors il va dire, voilà, shalom, on est ensemble. La fournaise lui a rien fait. Mais pas avant. Maintenant, ça c'est Abraham. Abraham, oh Havi. Abraham, c'est mon intime. Très bien. Maintenant, nous ouvrez. Alors, il arrive un malheur. Depuis Bereshit jusqu'à Abraham, voyons les bannis, voyons les bannis, vous avez bien vu un fromage? Vous lisez un petit peu. Voyons les bannis, voyons, combien? Des centaines. Il y a un bonhomme qui s'appelle Abraham. Pas d'enfant. Sarah Akara. Très bien. Non. C'est vrai qu'il y a des exceptions qu'on fait en arrêt. Mais Abraham et Sarah Imelou ne lâchent pas. Ils diffusent leur enseignement, ils diffusent leur idée envers et contre tous. Hanef et Chacha Asoum et Haram. Mais malheureusement, de tous ces gens-là qu'ils ont fait, oui, il restait un seul. Il est un seul. Et le reste, où ils sont? Vous devez être au London. Vous devez tout London. Ils sont tous partis, personne ne vient. Ça veut dire, eux, ils ont pris, ils ont accepté, ils sont rentrés, mais leurs enfants, ça ne collait pas. Alors, Abraham Avinu a dit, Ribono Sha'olam, écoute, il faut faire quelque chose. Moi, j'accepte ce que tu fais de moi. Pas de problème. Mais j'ai un seul désirata, un seul. Laissez ce message à quelqu'un. Et tout cela, que ce troupeau-là que j'ai, au fur et à mesure qu'ils partent, ils ne reviennent pas. C'est-à-dire, leur descendant ne revient plus. Alors, qui c'est qui va garder ce message? Ben Betty aurait choté. Il y a un seul, parce qu'il est chez moi, qui s'appelle Eliezer. Ah, je me dis, non, t'en fais pas. Je vais te donner ça. Mais Sarah Imenu, elle a grandi. 20, 25, 30, 30, 55, 60, 70, 80. Mais Abraham Avinu ne démord pas, Sarah Imenu ne désespère pas. C'est ça la force. C'est Michel Moutchalak. Je vois dans les astres. Oui, tu lis les astres. Tu lis les astres. Qu'est-ce que tu dis dans les astres?
Non, elle va avoir un enfant.
Non, elle ne va rien avoir. Rien. Abraham est nomolide. Abraham est nomolide. Fini. Abraham, il n'existe pas dans la liste. C'est Abraham. Alors, cherche Abraham maintenant. Il n'est pas là-bas. Abraham, oui, il n'a pas d'enfant, mais Abraham aura des enfants. Ah! Alors, après, on a eu Itzhak. Alors, Itzhak est venu. Après, Esther missionnant, 10 missionnant. Avec Sarah à 90, Tzadik. Abraham à 100. Et Het de la Mila. Voilà. Et on a fait Itzhak. Maintenant, Itzhak, tout seul, dans la nature. Alors, on ne veut que Yitzhak. Et un jour, il a promis à Abraham Avinu, il a été le chalé l'okim, vous allez faire la chalécha. Je choisis la descendance pour proclamer mon nom. Je suis le Dieu de ta descendance et que Yitzhak, pas quelqu'un d'autre. Bon, Yitzhak vient. Encore une fois, rebelot. Quel est rebelot? Encore Rivka, la seule qu'on a trouvée. La seule qu'elle a trouvée, il fallait chercher à Tartopion, jusqu'à Rabna Haraïm, envoyer les Ezer, est-ce qu'on va la donner ou pas la donner? Finalement, on l'a donnée, quand elle arrive, Akara. Encore sans rien. Akara, sans rien. Encore sans rien. Mais Yitzhak Avinu, il s'entête. Et Rivka aussi, la même chose. Rashi nous dit qu'il se mettait en prière en diagonale. Un ici, un là-bas. Il s'inquiète à quel jour. Si j'avais des enfants, que de cette femme. Et elle dit, si j'avais des enfants, que de cet homme-là. Il dit, ça te comprend bien quelque chose. Il s'inquiète à des enfants. Il y a une promesse. À Rivka, il n'y a aucune promesse. Mais il a quel jour il dit à quel jour. Tu veux dans les enfants? Voilà. Là-bas. Si elle vient, c'est bien. Ça va bien, c'est bon. Donc, elle attend 10 ans, 20 ans. 20 ans. Il s'est marié à 40 ans, il est marié à 60 ans. 20 ans d'attente. C'est pas facile. Aujourd'hui, ils attendent 3 mois, ils ont déjà chez le gynéco. Yitzhak arrive, il a deux enfants. Ces deux enfants sont jumeaux. Mais il faut que vous sachiez quelque chose, certainement vous ne connaissez pas. Hachamim disent que lorsque Esav est sorti, il a arraché l'utérus de sa mère. Vous voulez sortir avec le placentage de l'utérus. Donc, mais il faut savoir ce qu'elle a souffert. Je ne sais pas parce que ça fait plaisir. Donc, Rivka, il ne peut plus avoir d'enfants. Terminé. Et ça, qui se met des enfants de qui? De Rivka. Alors, ils viennent de jumeaux. Un peu différent, mais aussi intelligent l'un que l'autre, et même peut-être que Esav plus intelligent que Yaakov. Et Yaakov et Esav, jusqu'à 15 ans, tout le monde va bien. Abraham Avinu, il est là, le grand-père, il dirige les opérations, ils sont de bons élèves, Rachel, tous brillants, un plus brillant que l'autre. C'est la panacée pour Isaac, Abraham Avinu. Il a Isaac, et il a enseigné. Yaakov et Esav. Alors, il vient après un événement, un seul. Abraham Avinu va mourir. Et Esav, il disjoncte. Il disjoncte, oui, il disjoncte. Ça veut dire disjoncter. Non, il ne va pas faire des dieux, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous n'avez pas bien compris comment ça disjoncte. Quand ça disjoncte, ça veut dire, il y a ici un problème, il y a un tableau électrique, on a fait une surcharge électrique pour préserver la machine. Alors ça saute. C'est ça, la disjoncter. C'est réfléchi, c'est mal, ça ne disjoncte pas pour rien. Quand ça disjoncte, c'est réfléchi. Il dit quoi? Un homme aussi intègre, un homme aussi droit, un ange sur terre peut mourir? C'est pas possible! C'est inacceptable! C'est de l'injustice! Grand-père! Papi! Qui va lui donner à voir ma vie, nous? Y a-t-il un homme comme Abraham Avinu? Y a-t-il un autre homme? Et il a été. Il est mort, c'est pas possible. Cet homme n'est pas de ce monde, c'est un ange sur terre. Voilà comment il a disjoncté. Et donc, il a pris la tangente en français. C'est la prendre la tangente. Donc il a dit, je crois bien. Mais seulement c'est difficile, pas comme vous. Il fait chez Yitzhak Avinu. Il y a des marchés où se promènent ici. Oui. J'ai avant vu le marché se promener là-bas. Regardez, il y avait les marchés. Elle était étonnée qu'il les ait mis aussi à côté du point d'eau. Mais c'est des hommes qui vivent avec le céleste, c'est pas des gens qui vivent sur terre. Abraham et Hagaminou, c'est pas des gens du commun. C'est pas que je pourrais choisir Abraham et nous parce qu'elle dit que, bon, je suis fidèle à toi, alors. Bien, on s'entend bien. C'est pas ça, Abraham et nous. C'est pas pour faire le copain. Abraham et nous, c'est un génie. Adam Gadol Fahadakim. Était une piété extraordinaire. Il n'y a pas un homme comme lui dans le monde. Le Malachim l'entoure toute la journée. Il vit dans le ciel et il meurt. Alors là, ici, HaKadosh Baruch Hu a dit « Ki be'Yitzhak ikal lechazara »« Be'Yitzhak ve'lo kol Yitzhak » Pas tout Yitzhak. 50-50. Partiel. B, c'est un partitif. En Yitzhak. Parce qu'Esav, il a pris un autre chemin. Il a dévié. Maintenant, c'est pas encore suffisant que Yitzhak soit bien, que Yaakov soit bien. HaKadosh Baruch Hu va être le Dieu des monsieur Abraham, des monsieur Yitzhak, et vous devez être au London, le mari. Il veut être le Chauzaracha Harecha. Alors comment les descendants de Yaakov vont déclarer qu'ils veulent, lui, être le peuple de Dieu? HaKadosh Baruch Hu ne veut pas s'imposer. Ça, parce que c'est pas une chokma de s'imposer. Il pose à tout le monde, il écrase tout le monde comme une fourmi, etc. Il veut des hommes comme Abraham qui veulent, qui en connaissent, qui assument, qui sont prêts à mourir pour la vérité. Où on va trouver des hommes pareils? Où on va les fabriquer, ces hommes-là? Où on va les fabriquer, ces hommes-là? Alors il fallait passage obligé. Passez en Israël, s'il vous plaît. Passez en Israël. Là-bas, on avait le choix. Il y avait Yaakov et nous, qui est venu avec nous pendant 17 années. Il y avait les Shvatim. Et l'exil aurait pu être seulement le fait d'être transplanté dans un pays étranger. Mais il aurait fallu rester fidèle aux enseignements de Yaakov. Et être comme chez Bethlehem. Et ne pas dire, tiens, sauf qu'on sauf, oh, c'est bon, Mitzrayim. Quelqu'un a chez. Quelqu'un a chez. C'est un jardin divin. Divin. Alors nous aussi, on va se mêler à la vie. Alors que Yosef HaTzadik, il n'a pas voulu présenter à Paro, quand il a présenté ses frères, qu'il a présenté les plus faiblards. Les plus faibles, Mitzé et Ham. Il n'a pas voulu montrer les plus forts et les plus courageux, les plus vigoureux, les plus intelligents. Il a pris ceux qui paraissaient mous et effacés. C'est pas je dis pas sur du mal de le choisir. Ceux qui ne pouvaient pas percuter chez Paro. Pourquoi? Pour leur dire, écoutez, s'ils sont comme toi, j'ai des postes. Nous, on a un gouvernement ouvert. Sont gauche, sont droite. Si les frères sont comme toi, il y a de la place. Yosef avait peur de ça. Il voulait que ses frères, tous les frères, restent unis autour de Yaakov et surtout ne pas plonger dans la Touma de Mitzrayim. Depuis le début. Mais malheureusement, la tentation de l'être humain et la curiosité et l'intérêt, c'est eux qui ont influencé. Ils voulaient faire montrer qu'ils sont utiles au pays. On va vous intéresser, vous aussi. S'ils étaient restés autour de Yaakov, comme Yaakov l'a voulu, et qu'il a convenu comme il a prévu avant de venir au Mitzrayim, il a installé avec la Midrash. C'est la promesse de ce qu'il a envoyé. Avant de venir, il a envoyé au dans l'éclaireur, place avec la Midrash, où je peux professer. Et donc les châtis de lui prendre la relève et ne pas envahir à Hazouba. Ils ont compris, c'est leur pays. C'est la patrie. C'est pas la vôtre. Ils ont crié, c'est leur patrie. Voilà la faute. Alors, descendent dans les enfers et le culte Mitzrayim. Je vais aller vite. Maintenant, où c'est? Donc, il y a des millions de Bnei Israël dans Mitzrayim. Des millions. Pourquoi? On va prendre seulement le petit chiffre. Hamushim, Alou Bnei Israël, c'est Mitzrayim. Un des psatim de Rashi, le Moson Midrash, et Had mi Hamisha, un cinquième. Où sont passés quatre cinquièmes? Sont morts en Égypte. Parce que c'était leur patrie. Ah, je m'en veux nous sauver. Ah ben, c'est très bien. Il prend les Mitzrayim, out, et on s'en sort ici. Nous, on travaille pendant 200 ans ici. Pourquoi on fait ce qu'il y a? C'est bien, Israël, c'est fantastique. On travaillait, on a développé des structures, on connaît comment la vie économique, on est rodé, on va faire la guerre là-bas. Et si c'est bien. Combien sont restés là-bas? Ça, c'est le petit chiffre. 4 fois 600 000, c'est combien? 2 400 000. D'hommes âgés de 20 ans et plus. 2 400 000. Et si on dit c'est un cinquantième, 600 000 c'est un cinquantième, c'est combien? C'est des milliards. 50 fois 600, ça va être 60. 50 fois 600. 5 fois 6, c'est 3 millions. Mais 50 fois 600. Donc il y avait des hommes en Mitzrayim qui ont vu les miracles jusqu'à Makan Hosher, qui étaient réticents. Ils disaient, on reste là. Ah, je ne veux plus tout. Je veux plus tout. Ils veulent débarrasser des Mitzrayim, goodbye. Ils les enlèvent. Et nous, on s'installe en Mitzrayim, c'est très bien. Pourquoi donc désert aller faire la guerre quand t'as arrêté à qu'il n'a rien plaisé? On reste là. Alors il fallait des personnes qui veulent le projet divin. Alors ces hommes. Donc, ils ont opté pour le projet divin. À Kadosh-Bourou, il veut que son peuple soit en Israël et pas en Israël.
Pas
en Égypte. Même si c'est Ganachem, même si c'est le jardin divin. Donc, il y a une cooptation. Et c'est pas ça, c'est pas qu'on finit. Il fallait arriver. Messieurs, on va donner une Torah. Une Torah, ça veut dire loi. Elle a des exigences. 613 mitzvot. Chaque chose est calculée. Réflexion, acte, parole, geste, pensée. Et tout doit être droit. Yachar avec Dieu. Toujours en communication directe. Vous voulez? Pas de problème. Oui. Ah, c'est le chemin. Oh, à ça je vous réponds. Shima Ami Badaber. Le seul qualificatif que nous avons et qui crève les yeux à tous les monothéistes, quel qu'il soit, c'est ce mot-là. Ami, mon peuple. C'est pas mon ami. Ami.
Ami, mon peuple.
Mon peuple. Quand est-ce? Alors, Adam Bella, j'ai pu parler. Une fois que les Bnei Israël étaient prêts, donc il y a une cooptation. Mais il fallait une sélection sur une sélection sur une sélection. Donc, je n'ai pas continué ce que j'avais à dire. J'ai répondu à vos questions. Pardon. Oui, c'est ça ce qu'elle a dit. Ami, Amen, ça c'est consécration de sa décision. Mais elle arrive à cette déclaration. Combien? Demain. Demain, l'heure de souffrance. C'est dommage, j'ai pas. Bon, une autre fois.